Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation pour cette rentrée. C'est toujours un plaisir et encore un plaisir d'être là parmi vous. Merci au Seigneur de nous avoir accordé ce temps de vacances pour la plupart, je l'espère. Et sinon, à venir pour les autres. J'aimerais que nous entrions dans une réflexion sur qu'est-ce qu'un ministère équilibré. J'aimerais ajouter à ce verset, ces versets que nous avons lus il y a quelques instants, celui-ci, que l'on trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1er au verset 9, qui dit « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai », dit l'apôtre. Donc là on retrouve cette notion de servir pour le chrétien. Mais il ne faut pas oublier l'exhortation en fin de ces premiers versets. Donc, quoi que nous fassions pour le Seigneur, hein, comme de bons dispensateurs, comme des personnes voulant utiliser le don que Dieu nous a donné dans de bonnes conditions, pour le service envers les autres, et qu'en tout cela, quoi que nous fassions, que Dieu soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. C'est la fin du verset 11. Voilà un peu l'objet de notre méditation de cet après-midi, c'est nous amener à notre responsabilisation en tant que chrétien dans le service de Dieu, à bien comprendre ce que c'est qu'un ministère équilibré et à le développer et à bien l'utiliser. J'espère que nous aurons aussi le temps de se pencher sur des activités, des secteurs d'activité qui ne sont pas bien développés, afin de permettre un épanouissement de la communauté tout entière. Alors avant de nous lancer dans le vif du sujet sur ce ministère équilibré, voyons d'abord ce qui pousse les chrétiens, le chrétien, à avoir un ministère. Quelle est son essence? Jésus a dit dans Jean au chapitre 9 et au verset 4, « Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Alors là, je vous confirme, même s'il y a des nuages, il fait jour. Donc, œuvrons ensemble pour notre Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ. J'aimerais vous entraîner dans un petit récit qui a bouleversé la vie d'un chrétien quand il a lu cet article de quelqu'un qui se disait athée, et cela le poussa à consacrer entièrement sa vie à Christ. Alors je vous lis le texte. Si je croyais fermement, comme des millions de personnes prétendent le faire, que la connaissance et la pratique de la religion en cette vie a une influence sur notre destinée dans l'au-delà, alors la religion serait tout pour moi. Je regarderais les plaisirs de la terre comme des ordures, les soucis de la terre comme des folies, et les pensées aussi bien que les sentiments terrestres comme de la vanité. La religion ferait l'objet de ma première pensée au réveil et serait la dernière image que je conserverais avant de sombrer dans l'inconscience du sommeil. Je ne travaillerais plus que pour cette cause. Le seul lendemain dont je me soucierais serait l'éternité. J'estimerais qu'une seule âme gagnée pour le ciel vaut bien une vie de souffrance. La crainte des conséquences en cette vie ne pourrait jamais ni arrêter ma main, ni sceller mes lèvres. La terre, avec ses joies et ses peines, n'aurait aucune place en mes pensées. Je m'efforcerai de n'avoir en vue que l'éternité et les âmes immortelles qui m'environnent, promises bientôt à être éternellement heureuses ou éternellement misérables. Je m'en irai par le monde prêchant à temps et à contre-temps. Et mon texte serait « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Ça laisse pensif, je dirais, une des premières réactions, de voir comment une conviction profonde peut nous pousser à agir. Mais moi, chrétien, est-ce que je peux affirmer que mon engagement pour Dieu est réel ? Oui, je l'espère. Ma foi est synonyme d'action, pas de passivité, ni de lassitude, ni d'oisiveté. Il a été dit de Jésus, « Le zèle de ta maison me dévore. » Prenons encore l'exemple de l'apôtre Paul. Paul est un homme qui ne se soucie pas de se faire des amis, qui n'espère ni ne désire les biens de ce monde, qui n'a pas l'appréhension de souffrir la perte de quelque chose de terrestre, qui ne tremble pas pour sa vie, qui ne craint pas non plus la mort. C'est un homme qui ne représente ni rang social, ni un pays, ni une condition. Il est un homme d'une seule idée, l'évangile de Christ. L'homme d'un seul objectif, la gloire de Dieu. Un fou pourrait-on dire. Et acceptant d'être appelé et vu comme cela pour Christ. Qu'on l'appelle enthousiaste, on a dit que Paul c'était un enthousiaste, un fanatique, un discoureur, il aimait bien parler en public, ou tout ce que le monde peut imaginer pour le qualifier, il n'en reste pas moins difficile à décrire. Il faut qu'il parle, sinon il mourrait, et même s'il devait le payer de sa vie, il parlerait. Il n'a de repos, mais il va sans cesse par mer, par terre, pour annoncer l'évangile au plus grand nombre. Il crie à pleine voix, il ne ménage personne, ni ne se laisse influencer. Il a des paroles qui tranchent, des paroles qui divisent. Dans les prisons, il élève la voix. Il mène au sein des tempêtes sur l'océan. Il ne se tait point. Il parle, il prie, il exhorte, il intercède, il combat, il bénit. Un homme engagé dans un ministère pour le Seigneur est quelqu'un de zélé. Quelqu'un qui a une envie profonde de louer le Seigneur, de servir le Seigneur, d'apprendre et de transmettre. Paul est avant tout, en tout cas, un homme sérieux, un homme sincère, un homme droit, entier et fervent d'esprit. Il ne voit qu'une seule chose. Il n'est entièrement absorbé que par cette chose. C'est de plaire à Dieu et de rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'il fait pour son ministère. Paul, qu'il soit en bonne santé ou qu'il souffre comme il a souffert, qu'il eût été riche ou qu'il soit devenu pauvre, il n'a eu de cesse, Paul, que de partager la parole de Dieu avec ses contemporains. Il a été considéré comme fou, mais aussi comme sage. Il a été honoré, mais il a été aussi blâmé. Mais il ne s'en est pas soucié. Il brûle pour plaire à son Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Voilà, j'ai voulu un peu, au travers de ces deux exemples, montrer que un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit simplement, on va dire, une étiquette, ou maintenant on dirait un code-barre. Il y a quelque chose derrière. Quelque chose de fort et puissant. Quelque chose qui brûle en lui. Servir Dieu. Alors, si je me permettais de vous poser une question et de lever la main, je sais que ce n'est pas trop dans les habitudes, mais bon, les habitudes sont faites pour être changées. Si je vous demandais, est-ce que vous savez, je ne vais pas vous demander quoi, mais est-ce que vous savez, au fond de vous-même, que vous avez un ministère pour Dieu? Moi, j'ai un ministère pour Dieu. Je le sais. Stéphane, je pense que tu as un ministère pour Dieu. Tan aussi. Alors, que vous ne leviez pas la main devant moi, mais que vous soyez capable de la lever devant le Seigneur, c'est ce qui compte. Dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut pouvoir l'exprimer. Chaque chrétien, comme nous avons lu tout à l'heure, a reçu au moins un don de la part du Seigneur. C'est sûr, c'est vrai, c'est exact. Charge à nous, bien sûr, de l'identifier et de le pratiquer. Là me vient une image, c'est que je peux avoir le permis de conduire, mais si je ne conduis pas, à quoi cela sert-il ? Rappelons quelques points sur accomplir un ministère, ce que ce n'est pas. Déjà, commençons par cela, par enlever ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un état de supériorité. Ce n'est pas un passe-droit. Passe-droit, je ne passe pas avant les autres. Moi, je, donc je passe. Je n'ai pas la priorité là. Tiens, il n'y a pas le code de la route. C'est pas c'est moi qui ai raison. Ce n'est pas non plus c'est moi qui suis spirituel. Et toi, tu ne sais pas. Alors, ça peut faire sourire, mais croyez-moi, je peux vous parler par expérience. Ce n'est pas non plus une surexcitation fébrile et incontrôlée. Ce n'est pas non plus un délire mystique. Accomplir son ministère est bien plus que tout cela. C'est déjà une joie de servir. Un ministère sans joie, c'est un ministère à problème. C'est une consécration. Seigneur, je reconnais le don que tu m'as. Un jour, on reparlera des dons spirituels, de savoir comment les identifier, quels sont les moyens de le savoir et comment les mettre en pratique. Donc c'est une consécration, c'est Seigneur, oui j'ai reçu, merci Seigneur. Je ne sais pas forcément comment ça se passe, comment faire, mais puisque tu m'as donné, toi tu vas me permettre de l'apprendre et de progresser. Accomplir son ministère, c'est un désir profond et saint de parler de Dieu et de partager sa foi. Nous qui sommes réunis, chaque fois que nous intervenons, nous partageons notre foi ensemble. C'est une démonstration visible de notre foi. Un ministère. Un ministère aussi, c'est un enthousiasme dans le service. Je suis content de faire cela parce que je sais que ça vient de Dieu et je sais que ça plaît à Dieu et je sais que c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est un désir vif de montrer, pas de se montrer, mais de montrer l'action de Dieu et non la sienne propre. Je me réjouis de dire que j'étais un grand timide. Et je me dis, mais c'est vraiment une grâce de Dieu d'être là parmi vous cet après-midi. C'est une grâce de Dieu. Je ne peux pas dire que c'était quelque chose d'inné en moi, quelque chose de naturel. Non, c'est quelque chose qui est venu de Dieu. Qu'est-ce qu'un ministère déséquilibré? Tant que je considère ma foi comme une succession de devoirs, d'obligations à accomplir, je n'ai vraiment pas compris ce que c'était que la foi en Dieu. Et puis voyons encore ce que Jésus nous dit. Dans Galates au chapitre 4, verset 17, je lis « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis avec vous, en complément d'information. Notre zèle peut être mal placé. Là, il est à retenir dans le début de ce texte que leur engagement n'est pas pur. Il ne sert pas à 100% le Seigneur. Alors il y a peut-être 70% de Seigneur et puis 30% d'humain. Mais le Seigneur dit non. Moi c'est du 100%. Il n'y a pas de colorant, d'adjuvant, de E ceci, hein, de B cela. Non, c'est du 100% bio. 100% naturel. Notre ministère doit s'accomplir dans la soumission à Dieu, avant tout, dans le respect de sa volonté et des autres, sans védétariat, ni prétention aucune pour écraser l'autre prétendu faible. Attention quand nous considérons les autres prétendus faibles. Sans arrogance, ni tromperie, manipulation ou jalousie. Gare aussi à l'excès de zèle, qui peut faire commettre plus de tort que de bien. Mettant celui qui agit de la sorte, juge à la place du juge, par exemple, revêtu d'une autorité qu'il n'a pas, se croyant supérieur aux autres, ou disons plus spirituel. Ça, c'est le côté obscur du zèle, le côté obscur du ministère. Vous savez que le zèle a la même racine commune qu'un autre mot, la jalousie. Donc attention au déséquilibre. Celui qui tombe dans l'excès pense marcher dans la vérité, mais il chute. C'est comme si vous rouliez à 200 à l'heure sur une autoroute, vous ne voyez plus les panneaux, vous ne savez plus où vous allez. Vous perdez les notions. Qui est autour de moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'ai-je vu? Qu'ai-je fait? Je n'ai même plus le temps de savoir qu'est-ce que j'ai parcouru comme distance. Je suis en roue libre. Il n'y a plus que le mur pour m'arrêter, hein. Ou alors les gendarmes. Malheur à nous qui pourrions être une pierre d'achoppement pour les autres dans notre ministère déséquilibré. Paul a utilisé le zèle dans le sens défavorable comme jalousie, querelle et dispute. Il a bien présumé que le zèle pour Dieu, sans soumission totale, sans l'autorité de Dieu, engendre des destructions, des divisions, des oppositions. Pour être zélé, il faut aimer le Seigneur, bien sûr, avoir le désir de le servir, de mettre les dons à son service. Donc attention de ne pas avoir un ministère déséquilibré. Alors un ministère, ce n'est pas quelque chose, attention, on n'est pas... Il ne faut pas faire le rapprochement avec la politique. Vous êtes tous et toutes des ministres du Seigneur. À partir du moment où nous avons un don, nous sommes ministres. Attention, hein. C'est pas... Stéphane a joué de l'orgue, c'est un ministre. Corise a partagé un chant, c'est un ministre. Moi, je suis ministre. Non. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui ont vraiment compris que nous avons reçu un don, nous sommes des ministres. Attention, hein. Il n'y a pas de spectateur, d'accord. Il n'y a pas de second rang. On est tous au premier rang, devant le Seigneur, je parle. Imaginons-nous. Le Seigneur, c'est le roi et nous sommes tous ses ministres. Un don, un ministre. Un don, un ministre. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas se transposer sur celui qui est devant. Ben, y a un ministre, c'est bon, ça suffit. On a ce qu'il faut. Non, pas du tout. Alors, vous avez bien compris que la prochaine fois, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un ministère équilibré. Alors, vous ne me direz pas, c'est le contraire de ce qu'on vient de discuter. Hein. On ira plus loin. Et je compte sur vous. J'espère que la prochaine fois, quand je vous poserai la question, vous pourrez lever la main. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour que le Seigneur puisse continuer à nous guider dans sa parole, dans la réflexion. Avec le sourire, bien sûr, mais aussi avec le sentiment de vouloir apprendre. Apprendre quelque chose du Seigneur, avec le Seigneur, tous ensemble. Soyez bénis. Amen.